Et l'invité de France Inter jusqu'à 9h est la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être au micro d'Inter. Une réforme globale du système de santé a été annoncée hier en détail par le Premier ministre et vous-même. On va y venir en détail après une série de questions sur la rougeole. 269 cas de rougeole recensés en Nouvelle-Aquitaine depuis début novembre. 4 patients en réanimation et une patiente donc décédée. Est-ce que vous confirmez qu'elle a attrapé, comme on l'entendait dans le journal de 8h de Marc Fauvel, elle a attrapé la rougeole à l'hôpital ?
Alors, c'est ce que dit la maman. Aujourd'hui, je n'ai pas les éléments, évidemment, pour conclure. Et donc, j'attends de savoir ce qui sera dit par le personnel de l'hôpital, puisque nous avons demandé, évidemment, des remontées. Ce qui est clair avec cette épidémie, c'est que malheureusement, quand une couverture vaccinale de la population est insuffisante, les personnes les plus vulnérables l'attrapent. Aujourd'hui, pratiquement tous les cas de rougeole sont survenus chez des gens soit non vaccinés, soit n'ayant eu qu'une seule dose dans leur vie, alors que 2 doses étaient recommandées à l'époque. Elles sont maintenant obligatoires, je le rappelle, en raison de la gravité de la maladie.
Oui, parce que il peut y avoir des refus théoriques, on va dire, de se faire vacciner. Il y a aussi un problème de mal-vaccination, entre guillemets. Je suis certain que beaucoup d'entre nous ignorent exactement où ils en sont dans leur vaccin, leur rappel. Le carnet de santé, ça fait longtemps qu'on l'a pas lu.
Alors d'abord, un carnet de santé électronique accessible à tous sur Internet va être mis en place en 2018. C'est important pour s'y retrouver. Et vous avez raison, beaucoup de vaccins nécessitent 2 ou 3 doses pour entraîner une immunité suffisante, une protection suffisante, notamment le vaccin de la rougeole. Et lorsque les enfants ou les adultes actuels n'avaient reçu qu'une dose, eh bien, ils ont pu contracter la maladie pendant cette épidémie.
Avez-vous des nouvelles des 4 patients qui sont en réanimation ? Le pronostic vital est engagé, la situation est très grave pour ces 4
malades. Alors, non, je n'ai pas de nouvelles individuelles, mais statistiquement, il faut savoir que dans une épidémie de rougeole, il y aura un décès sur 3000 cas, il y aura une encéphalite avec séquelles, c'est-à-dire cécité ou déficit moteur, c'est-à-dire un handicap pour 1500 cas, et des pneumopathies beaucoup plus fréquentes avec
nécessité. C'est considérable.
Donc c'est considérable, c'est une maladie potentiellement grave, et les personnes les plus vulnérables, et notamment celles qu'on ne peut pas vacciner aujourd'hui, pâtissent du fait que la population n'est pas suffisamment couverte par le vaccin et dissémine le virus.
Vous redoutez, Agnès Buzyn, que cette épidémie se propage en France ?
Oui, je demande vraiment aux personnes qui ne sont pas vaccinées ou qui n'ont pas fait vacciner leurs enfants de faire un rattrapage aujourd'hui, parce que notamment dans certaines régions de France, la couverture est autour de 70%. C'est le cas dans le sud-ouest. C'est totalement insuffisant pour empêcher une épidémie d'émerger.
On espère qu'il y aura des questions sur ce thème au standard d'Inter dans quelques instants. Réforme globale donc du système de santé, les annonces ont été faites hier. Le sujet est massif, extrêmement technique, il ne faut pas se le cacher, mais il nous intéresse tous. Alors, pour qu'on comprenne bien les choses, dites-nous, quelle est la clé de voûte, quelle est la finalité de cette réforme ?
Alors, la finalité de cette réforme, c'est de répondre aux besoins de santé de la population française de demain, et je dirais même d'aujourd'hui, parce que le constat aujourd'hui est partagé par l'OCDE, par la Cour des comptes, par les professionnels qui connaissent le système de santé. Premièrement, notre système de santé est basé sur le soin, c'est-à-dire les actes curatifs, parce qu'il a été construit à une période où il y avait beaucoup de maladies aiguës dans l'après-guerre et assez peu de maladies chroniques. Et on s'aperçoit de cette épidémie, entre guillemets, de maladies chroniques qui nous touche, qui nécessite qu'il y ait plus de prévention. Et notre système de soins n'est pas un système de santé qui prévient les maladies. Donc il faut impérativement plus de prévention pour vivre longtemps, mais en bonne santé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la population française. Le deuxième constat, c'est que les Français ont peur de ne pas accéder à des soins de qualité partout. Il y a une hétérogénéité de pratiques sur les territoires, hétérogénéité d'installations sur les territoires. Il y a cette angoisse et nous devons y répondre. Troisième constat, le système est complexe. Et quand on est bien portant, on sait où trouver un médecin. Quand on a une une ou plusieurs maladies chroniques, qu'on a besoin de faire appel à 3, 4, 5 professionnels de santé, cela devient un parcours du combattant, un labyrinthe que de se retrouver dans le système de santé, notamment pour les personnes les plus âgées. Et nous devons donc construire un système tourné autour des patients et pas qui fonctionne tel qu'il fonctionne actuellement, en silo, l'hôpital dans un coin, la médecine de ville dans l'autre, les médecins d'un côté, les paramédicaux de l'autre, le médico-social, les EHPAD, où il y a beaucoup de besoins en soins aujourd'hui, qui sont également dans leur coin, et nous devons construire des coopérations et coordonner les parcours de santé des gens.
Pour dire les choses encore autrement et prendre deux exemples concrets, entre guillemets, un Français donc atteint d'une maladie de longue durée, la réforme faite, qu'est-ce qui va changer pour lui ? Ce sera plus lisible entre le généraliste et l'hôpital et les allers-retours ?
Exactement. Pour quelqu'un qui a une maladie de longue durée, qui a besoin de d'être vu régulièrement par un médecin, mais qui a aussi, je pense, à un patient diabétique, par exemple, qui a besoin d'être vu par son généraliste, qui a besoin de bilans sanguins réguliers, mais qui a aussi besoin d'un podologue, d'une diététicienne, d'un ophtalmo, d'un cardiologue, eh bien, nous allons organiser des parcours sur le territoire pour sa prise en charge et peut-être même des tarifs pour ce parcours que se partageront en termes de rémunération les professionnels de santé. Alors voilà, on veut que la rémunération ne soit plus uniquement liée au nombre d'actes, mais aussi à la qualité du parcours de soins autour du patient. Vraiment, c'est une réforme qui se place du côté des malades et qui, à mon avis, va aussi donner du souffle aux professionnels qui, aujourd'hui, souffrent de ces silos, de ce manque de coopération.
Si on prend un Français qui vit dans un désert médicale qui peine à effectuer des soins courants, est-ce que la réforme répond à cette problématique ?
Oui, elle va répondre parce
que... Et quand ?
Alors, ça va être un peu long, évidemment. Je ne dis pas qu'on va avoir une solution dans tous les territoires tout de suite, mais on va demander à chaque territoire de s'organiser en filière de soins. Et on va essayer de graduer les soins dans les établissements, c'est-à-dire définir quels sont les établissements de recours dans lesquels il y aura des plateaux techniques de très haute technicité avec des compétences particulières, quels vont être les établissements de premier recours, comment ils vont travailler avec la médecine libérale, notamment les médecins généralistes, mais aussi comment ces généralistes vont s'organiser avec les autres professions de santé, infirmières, pharmaciens, kinésithérapeutes, pour apporter un vrai service aujourd'hui aux personnes malades qui se sentent un peu, je dirais, trimballées d'un acteur de soins à un autre sans véritable coordination.
Mais ma question portait sur le médecin généraliste qui part à la retraite, dont le cabinet ferme, et voilà. Alors, avec son départ, se crée un désert. Est-ce que ce problème-là, qui est un vrai problème, et des déserts, il y en a partout, hein, il n'y en a pas que dans les campagnes, il y en a aussi en ville ou dans les périphéries urbaines, est-ce que ce problème-là peut être réglé rapidement ? Est-ce que votre réforme le permet ?
Alors,
oui, non, peut-être, rapidement ou pas.
Alors, rapidement, c'est peut-être un grand mot. Mais on a, dès notre arrivée au gouvernement, lancé un plan spécifique pour lutter contre les déserts médicaux. Et ce plan comprend des mesures très pratiques que j'ai demandé aux agences régionales de santé de mettre en œuvre sur les territoires en organisant sur chaque bassin de vie, sur chaque territoire dans lequel il y a cette désertification médicale, en organisant je dirais des permanences de soins opérées par d'autres professionnels de santé qui viennent d'autres territoires. Donc aujourd'hui, ces organisations, elles se mettent en place, elles sont orchestrées par les agences régionales de santé avec l'ensemble des médecins et des professions de santé du territoire, mais aussi avec les élus qui sont en grande demande d'organisation. Donc, il y a déjà un plan dédié sur les déserts médicaux qu'on a lancé le 23 octobre, qui se met en place dès à présent. Le comité de lancement s'est tenu la semaine dernière. Et au-delà de ça, la réforme va aller beaucoup plus loin dans l'organisation des parcours de soins pour les malades.
Elle ira, Agnès Buzyn, cette réforme jusqu'à dire « Toi qui es diplômé, qui peut donc exercer comme médecin, tu vas t'installer est là parce qu'il n'y en a pas et c'est fini la liberté d'installation.
Alors aujourd'hui, nous ne prenons pas la fin de la liberté d'installation parce que dans tous les pays où cela s'est mis en œuvre, cela n'a pas fonctionné, notamment lorsque les démographies sont faibles, c'est-à-dire quand il y a très peu de médecins, ce qui est le cas aujourd'hui, ou trop peu de médecins, quand on les force à s'installer quelque part, en fait, ils vont choisir un autre métier, une profession salariée, par exemple, dans une école, et ils n'iront pas s'installer. Et donc l'Allemagne qui l'a tenté, le Canada qui l'a tenté, ont vu que c'était un échec. Aujourd'hui, nous avons plutôt des mesures très incitatives et des mesures organisationnelles. C'est comme ça que nous travaillons avec les professions de santé.
Tension sociale, absentéisme, épuisement, burn-out dans les hôpitaux, les EHPAD en crise avec une grève, la psychiatrie, le secteur de la psychiatrie qui est épuisé. Vous l'avez dit, cette réforme vise à reconstruire le système de santé qui est largement issu de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà pour le projet, c'est un projet de moyen et long terme. En attendant, vous faites quoi pour ces crises aiguës, comme la fièvre? Comment vous la faites retomber? Qu'est-ce que vous proposez à ces personnels de santé qui sont dans une forme de désarroi et ne peuvent pas faire leur métier? Là, maintenant, en 2018.
Alors, je vais vous répondre d'abord sur l'hôpital. L'hôpital souffre d'une crise de sens. Il a subi beaucoup de réformes depuis 15 ans, dont une réforme de la tarification qui a poussé à faire de plus en plus d'activités pour que l'hôpital ait un budget à l'équilibre. Et les professionnels de l'hôpital qui se sont engagés dans le service, notamment le service public, ils aiment prendre du temps avec les malades. Ils n'ont plus ce temps. Ils n'ont plus ce temps au quotidien. Et donc, je veille, et ça c'est ma priorité aujourd'hui, à réduire la part du financement de l'hôpital qui est liée à cette activité, à cette course à l'activité, pour essayer de rémunérer les professionnels aussi, en tout cas l'hôpital, financer l'hôpital sur d'autres valeurs.
C'est fini l'hôpital entreprise ?
Je souhaite que ce soit fini. Ça me choque quand j'entends qu'un hôpital cherche des parts de marché par rapport à une clinique privée. Aujourd'hui, nous avons besoin de tous les professionnels sur les territoires. Nous avons besoin qu'ils coopèrent et pas qu'ils soient en concurrence. Et ce système de tarification vise à entraîner une concurrence entre les établissements.
Vous n'allez pas recruter d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants. On a vu lors de la crise des EHPAD que c'était le problème, qu'il n'y avait pas assez de monde, il n'y avait pas assez de personnel pour le fameux un soignant pour un malade. Donc je vous repose la question de la dimension aiguë d'un certain nombre de crises de la santé aujourd'hui, crise que le plan présenté hier laisse intacte.
Alors, sur les EHPAD, la situation a été évoquée hier, hein, mais c'était vraiment un plan hier dédié à la transformation du système de santé. Sur les EHPAD, on a deux sujets. Un premier sujet qui est évidemment aigu, qui est la crise que subissent aujourd'hui les EHPAD, en sachant que on met dans le même panier des EHPAD privés, des EHPAD publics, qui n'ont pas tout à fait les mêmes contraintes. Il y a, d'autre part, dans la façon dont on finance les EHPAD aujourd'hui, trois acteurs. L'État n'est pas le seul financeur des EHPAD, il finance en fait la partie soins. Or, nous avons beaucoup augmenté le budget dédié aux soins, parce que les EHPAD liés au vieillissement de la population ont de plus en plus besoin de soignants, d'infirmières. Donc nous allons créer des postes d'infirmières dans les EHPAD, et notamment des infirmières de nuit, et aussi des postes d'aides-soignants. Et nous voyons bien que ce qui pose problème aujourd'hui, c'est plutôt la partie dépendance, qui est financée par les départements. C'est-à-dire l'aide à manger, l'aide à s'habiller. Et ça, ce ne sont pas les infirmières et les aides-soignantes. Et j'ouvre donc, je vais ouvrir dans les mois qui viennent, une réflexion de plus long terme sur la prise en charge de la dépendance de nos personnes âgées, parce que je crois que les problèmes sont devant nous.
On reviendra, Agnès Buzyn, après la revue de presse avec les auditeurs de France Inter sur la question spécifique de la psychiatrie. Une dernière question d'actualité. Est-il vrai, comme l'indique le Figaro ce matin, que la loi anti-fake news pour la confiance dans l'information pourrait être étendue aux campagnes d'intox contre la vaccination?
Aujourd'hui, ça n'est pas un sujet qui a été traité entre nous. Je ne sais pas qui vous donne cette information.
Figaro ce matin.
En tous les cas, il s'agit pour l'instant d'une loi qui est dédiée aux fake news pendant les périodes électorales, et ça n'a pas touché les fake news dans le domaine, je dirais, de la science, parce que le problème n'est pas que la vaccination.
Ça vous semblerait utile?
Je ne suis pas sûre qu'on traite la question des croyances versus des faits scientifiques par une loi. Moi, je crois qu'il y a un sujet d'éducation sur le fait scientifique. C'est ma bataille, c'est-à-dire de faire revenir le rationnel dans le débat. Je ne crois pas que la loi permette
de trancher
définitivement.